Le mois de Ramadan est un mois qui réunit tous les types d'adoration.
L'ibadat.
C'est en quelque sorte des mises à jour qui reviennent de manière périodique pour vous mettre en phase avec Dieu.
Pour vous mettre aussi en phase avec vous-même.
Inch'Allah Rabbi, tqabbal minna. Allahumma laka somtu ala rizqika
aftan. Que Dieu nous aide dans cette épreuve ô combien bienfaisante. Retrouvez-nous durant ce mois béni de Ramadan tous les jours de la semaine entre 6h et 7h du matin pour des séances de rediffusion. Quant au vendredi, nous serons ensemble à 6h et à 14h pour de nouvelles thématiques. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, sur nos ondes, sur la mailbox et sur la page x.com au cœur de l'islam, chaîne 3. Ramadan Mubarak, soumoub sahaw lahna.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, salam azoul, quel bonheur d'être en votre compagnie sur les ondes positives de la radio algérienne, la radio chaîne 3. Et nos chemins se rencontrent de nouveau chaque week-end pour vous apporter des réponses à vos questionnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et même sur la boîte mail. Merci de votre confiance et merci pour vos retours pertinents sur la page x.com, anciennement Twitter, au cœur de l'islam, chaîne 3. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors, dans la lignée des émissions consacrées à Sidna Mohammed, dernier prophète messager ayant scellé la tradition des prophètes de Adam à Isa alayhi salam, ou salat ou salam ala Sidna Mohammed wa ala ali baytihi al-kiram. Et aujourd'hui, sur votre proposition Kamel Shekat, nous allons nous intéresser aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa salam et leur application aujourd'hui, cette époque très tumultueuse.
À l'ère de, il y a quelques années, j'ai fait une série d'émissions qui s'intitulait « L'islam à l'heure de la mondialisation ». Là, nous allons parler d'islam à l'heure du gouvernement du diable. Vous savez, moi, ce que je voudrais, c'est revenir sur le discours d'adieu, l'oraison d'adieu du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, lors de son pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada. Finalement, quand on relit ce discours, on se rend compte que finalement, il ne s'adressait pas à ceux qui l'écoutaient au moment où il l'écoutait uniquement. Il s'adresse actuellement à toute l'humanité à travers tout ce qui a été dit. Vraiment, le discours a focalisé sur les points les plus importants et c'est comme si le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, donnait des réponses à tout ce qui est mis en avant, à tout ce qui est plébiscité, à tout ce qui est promu par je reprends les propos d'Albert Pike par le gouvernement de Satan.
Qui est Albert Pike, Kamel Shekat?
Un grand franc-maçon du 33e degré.
Mais il y en a beaucoup, hein.
Giuseppe Mancini. Donc c'est non, parce que vous savez.
Et il ne cherche plus à se cacher d'ailleurs.
Non, non. Albert Pike à son époque, bon, il ne s'est pas du tout caché. Et nous citerons d'autres personnes. Mais quand vous voyez tout ce qui se passe actuellement dans le monde, l'affaire Corona, le projet HARP,
l'agenda 2030, la pédophilie donc qui devient une institution protégée par les grandes organisations mondiales.
De Mel Gibson avec Tim Ballard qui a tout
l'affaire
dévoilé.
L'affaire Epstein, justement dévoilée par Carl Zero.
Absolument. Et il y a aussi une autre affaire parce que, justement, il y a eu une émission où Carl Zero a été invité par
Idrissa Berkane, par André Berkoff.
Oui. Et Idrissa Berkane lui-même a eu des problèmes en Suisse. Il a quitté la Suisse parce qu'on a failli attenter à sa vie pour avoir justement dévoilé tout un réseau pédophile dans la télévision mondiale, mais à travers la télévision suisse. Ouais. Ce qui est très très grave. Et là, les enfants des musulmans, qu'on prend de force parce que leurs parents ne les éduquent pas selon le modèle LGBT tant souhaité justement
moderne
par les satanistes. Et quand nous disons satanistes, le problème, c'est que nous ne sommes pas dans la fiction. Nous sommes vraiment en train de parler d'une théorie de la conspiration qui vise à détruire le monde entier, ou du moins à réduire la population des êtres humains au niveau même à l'échelle planétaire. Et ce que les gens, du moins ce que les musulmans doivent comprendre, c'est que l'islam, à l'heure actuelle, constitue le dernier rempart. Et nous démontrerons qu'il y a vraiment toute une politique qui vise à déstabiliser tout le monde musulman. Et à travers justement cette idée de l'islam en tant que dernier rempart, nous parlerons à travers l'oraison d'adieu du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, en tant que sauveur de cette humanité. Que n'en déplaise à ses détracteurs, c'est le sauveur de l'humanité. Nous donnerons tous les arguments. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Nous arrivons à un moment de l'histoire où vraiment c'est la préparation de l'avènement, de la venue pratiquement de l'Antéchrist. Je ne vais pas vous dire à quel moment il va venir, mais les signes avant-coureurs sont là. Et ce gouvernement du diable, ce gouvernement du Novus Ordo Seclorum, du Nouvel Ordre Mondial, il existe, il a ses tentacules, il a ses ministères, il a ses institutions. Nous ne pouvons pas citer certaines grandes institutions pour rester dans le politiquement correct, mais je suis désolé, quand vous voyez des organismes comme le Fonds Monétaire International et toutes ces banques, et ces noms qui reviennent très très souvent comme Soros, Rockefeller et j'en passe.
Bill Gates. Schwab.
Oui, Schwab, Bilderberg. Bill Gates qui est en train de
créer une nouvelle OMS, oui. L'OMS 2.
Carrément, il veut créer une nouvelle carte par laquelle il veut vraiment avoir la maîtrise sur tous les êtres humains sur Terre. Il est en train de soudoyer carrément ceux qui font marcher l'OMS. Donc c'est
déjà que l'agriculture modifiée, OGM, c'est lui, la viande artificielle,
les campagnes de vaccination dans certains pays d'Afrique.
En Éthiopie, ça continue.
Même au Kenya. L'Éthiopie.
Même la carte, hein.
Oui, l'Éthiopie malheureusement est un pays qui est acquis à cette politique du gouvernement mondial.
Il est dans les BRICS.
Oui, il est dans les BRICS. Oui. Au Kenya, par exemple, on s'est rendu compte qu'une campagne de vaccination ne visait pas à éradiquer certaines maladies, mais c'était un projet qui visait à rendre stériles toutes les femmes qui ont reçu ce vaccin. C'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer.
Vous me rappelez, excusez-moi Kamchakat, vous me rappelez le fameux paracétamol d'une certaine entreprise pharmaceutique française.
Il ne faut jamais le donner aux femmes enceintes.
Oui.
Mais attendez, même l'eau dans ces bouteilles en plastique, il y a des molécules de synthèse et de la progestérone qui a pour objectif de féminiser la population masculine mondiale. Vous imaginez? Donc c'est vraiment terrible. C'est terrible.
Vous dites que l'islam est le dernier rempart, Kamel Chekat.
Nous allons le démontrer.
Mais nous sommes très loin de notre islam. On se rappelle de ce petit micro-trottoir diffusé dans une chaîne privée où l'on posait des questions à des jeunes. Connaissez-vous votre prophète? Quel mois est-il?
Oui, c'est ça. Oui, malheureusement.
On est vraiment dans ce verset, Kamel Chekat.
Oui, on est plein pied, on est dedans, oui.
Pourquoi faudrait-il continuer à parler aux gens de la sira du prophète alayhi salat wa salam? Alors vous avez professeur Ruqayya, une chercheure savante, professeur Ruqayya Taha Jaber Al-Ulwani, qui écrivait dans le début de sa biographie sur le prophète alayhi salat wa salam, je la cite, « Bon nombre de penseurs occidentaux et musulmans ont entrepris l'étude de la biographie du noble prophète. Néanmoins, la plupart d'entre eux considèrent la biographie et la tradition prophétique comme des sermon spirituel et une guidance religieuse sans rapporter aucun avec les affaires du civisme, des sciences, des connaissances de la civilisation et de la construction de l'humanité. Cependant, la personnalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a signalé le Coran, qui a enregistré la plupart des événements de la biographie, des hadiths et des livres de biographie, a traité les principales questions sociales, politiques, religieuses et historiques de l'humanité, ce qui nécessite le réexamen de la nature de la méthodologie qu'on applique à ces différentes nouveautés afin de réinventer les fondements nécessaires qui permettent d'entretenir ces questions et de les traiter conformément à la méthodologie prophétique.
Absolument. Oui, il vaut mieux aller dans ce sens. Ça, c'est une proposition sérieuse. Nous ne sommes pas dans la logique justement de ces gens qui veulent à tout prix plaire justement à l'Occident et qui vous proposent, oui, une relecture du Coran, mais comme ça, de manière aléatoire, et puis on va se fier au goût, on va faire ceci et cela. Du n'importe quoi. Pourquoi pareille entreprise? En parlant de cette série d'émissions qui va venir, nous en tant qu'êtres humains, nous savons que nous n'avons aucune obligation de réussite. Je pense que le plus important pour tout musulman est d'essayer de faire du bien autant que faire se peut sans même se soucier du résultat. faites ce que vous pouvez faire jusqu'au moment où vous ne pouvez plus rien faire. C'est ça, ça marche comme ça. Faites ce que vous pouvez faire pour que cela puisse plaider en votre faveur le jour de la résurrection. Pas plus ni moins.
Être comme cette labine al-akhira.
Ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Oui, pourquoi pas. Être à la hauteur ou à l'image de cette dernière brique qui va venir donner à l'édifice toute sa splendeur, toute sa beauté.
C'est cela l'excellence.
Pourquoi pas? Il faut, de toute manière, il faut viser l'excellence. Vous n'avez pas le droit de tenter ou d'entreprendre quelque chose de bien en plaçant des limites ou en vous mettant des limites. C'est-à-dire que, voilà, non, je vais faire telle ou telle chose, mais je vais me ménager de sorte à ne pas... Bon, on peut se ménager pour ne pas s'essouffler et pour tenir le plus longtemps possible, mais certains musulmans, on a l'impression qu'ils font le juste minimum. Et d'ailleurs, même quand ils vont prier, « قُلْ كَانِ رَحْنَاطِ حَقَ رَبِّي لَنْ تَفِيهِ حَقَّهُ مَهْمَا فَعَلْتُ. » Tu ne pourras jamais rendre à Dieu ce qui lui est dû, quoi que tu puisses faire. Il faut partir dans cette logique. Et c'est ce qui a été enseigné par le messager de Dieu, à ses compagnons. C'était des gens qui agissaient comme ça, dans une sorte d'humilité. Et on va retrouver ça dans l'école des prophètes. Souvenez-vous de ce que dit le Coran quant à l'épreuve de Sidna Ibrahim, alayhi salam. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Je vois dans un songe que je suis en train de t'immoler. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Fais ce qui t'est commandé.
Satajidouni.
Insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras, si Dieu veut, du nombre des endurants. Le geste, vous imaginez, il est plus qu'héroïque. Le jeune homme va se donner à Dieu parce que selon ce que lui ressentait, c'était un décret divin, une volonté divine. Avec cela, il ne s'attribue aucun mérite. C'est pas un geste héroïque ou quoi que ce soit. Ça s'inscrit dans l'humilité. Inch'Allah, nkounou min ha'oula.
Vous me faites rappeler, Kamal Chekat, dans l'introduction du livre de Mohamed Hamidullah, dans sa biographie du prophète, alayhi salatu wasalam, il disait, pourquoi étudier la sirah du prophète, sallallahu alayhi wasalam? C'est évident pour les musulmans, c'est une obligation. On ne peut pas être musulman si on ne suit pas la conduite du guide dans notre vie. Mais il va au-delà, il faut porter le message plus loin à toute l'humanité. Alors, il a énuméré une série de réponses. Pourquoi étudier la biographie du prophète? Et dans le cinquième point, il écrit « L'histoire humaine ne manque pas de grands rois, de grands conquérants, de grands réformateurs, de grands ascètes, etc. Mais la plupart du temps, chacun n'a de valeur que dans son propre domaine. L'assemblage de tous ces divers aspects chez un seul homme, comme c'est le cas chez Mohammed, est non seulement très rare, mais constitue aussi un cas où l'enseignement eut la chance d'être mis en application par celui-même qui avait enseigné. La direction est équilibrée par l'expérience.
Ce qu'il dit là, la chose a été démontrée, mais de manière très très méthodique par celui qui a écrit 100 First, les 100 premiers,
Michael Hart.
Et c'est vrai, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tout réuni. Lamartine disait, il était plus qu'un prophète, moins qu'un dieu. Il a bâti 20 empires terrestres et je ne sais quoi. Et donc...
C'est pour ça qu'on l'a appelé dans l'évangile, l'éternel, Kamal Chakat.
Ça parle
De Sidna Mohammed, alayhi salatu wasalam.
L'éternel?
Oui.
Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance de ce passage. Quand je lis l'éternel dans les deux, ce qu'on appelle les deux testaments, pour moi, ça, c'est Dieu, tout simplement.
C'était par Isa alayhi salam, hein, carrément. Dans l'Ancien Testament, l'éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé pour eux de Seir.
Oui,
il a resplendi de la montagne de Paran et il est venu avec 10 000 saints.
Saints, oui. Le Fath Mecca.
Il a appelé l'éternel Sinaï, Isa alayhi salam.
Oui, mais l'éternel ici
l'éternel
signifie...
L'éternel par la renommée.
À mon sens, ça ne concerne pas un humain, ça concerne directement Dieu, à travers lequel il y a des gens qui sont venus, et c'est la chose fait allusion justement aux musulmans, oui, tout simplement.
D'accord, très bien. Continuez.
Ce que je voulais donc dire, c'est que c'est vrai que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une personnalité unique, qu'on le veuille ou non. Et la preuve est que les attaques ne cesse de se multiplier, de se diversifier pour jeter le discrédit sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le problème actuellement, c'est que, à un moment donné, ces attaques nous venaient des non-musulmans. Maintenant, ça commence même à venir des musulmans. Il y a même des pseudo-musulmans, je ne sais pas comment les appeler, qui vous disent « Oui, mais attendez, il faut parler de Mohammed comme d'une personnalité historique. Il faut lui ôter cette aura, cette sacralité qui l'enveloppe. Il faut commencer à discuter de lui, à le critiquer comme on critiquerait un homme politique. » Ça ne peut pas se faire. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit, par moment, quand vous lisez des hadiths ou des versets, d'être étonné, subhanallah, dans pas mal de domaines. Mais essayez déjà de comprendre ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les gens, beaucoup de gens ne font pas cet effort. Et ça aussi, nous reviendrons sur des exemples qui tendent à le prouver.
Et justement, Kamal Chakat, vous avez, en naviguant comme ça sur les réseaux sociaux, de grands mouftis du Hijaz qui sortent avec des annonces comme quoi le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam...
Damuhu Najis,
des choses comme ça.
Qimmatul Jahl. Vous savez, ça, en disant cela, les gens atteignent le paroxysme de l'ignorance. Quand on parle de pureté rituelle, le sang est impur. S'il dépasse chez certains fuqaha, par exemple, si vous avez du sang sur un vêtement, il a faq rub' dinar dahabi. Rub' dinar dahabi, c'était l'équivalent pratiquement de la pièce de 5 dinars, l'ancienne pièce, à peu près. Si on est à cette hauteur-là, le vêtement ne peut, bon, vous pouvez pas l'utiliser, par exemple, pour la prière, par exemple. Donc le sang, c'est impur. Mais aller jusqu'à déjà disserter ou discuter du sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il est impur, hadi qillat al-adab, yani c'est un manque de respect pour le messager de Dieu, pour l'islam en tant que religion, qui dénote une ignorance sans précédent. Et les pseudo-savants du Hijaz, vous savez, quand on parle des savants du Hijaz, Le Hijaz, mis à part 4 ou 5 personnalités qui ne sont pas suivies par les salafistes, hein, qui sont haïs par les salafistes, par ceux qui s'appellent des salafistes. Parce qu'on
les a anathémisés carrément.
Oui, carrément. Mis à part 4 ou 5 personnalités, la yujadu fil Hijazi alimun. Il n'y a pas de savant digne de porter ce titre. Vous ne trouverez pas dans ce pays des gens qui sont à la hauteur des savants d'Al-Azhar, des savants de Zaytouna, des savants d'Al-Qarawiyyin, des savants de Syrie et des savants d'Algérie. Nous avons ici des personnalités qui la dernière dépasserait de loin 100 personnes de cette nomenclatura religieuse réunie. Et le problème est que ces gens-là ne dissertent que de choses qui n'ont aucun intérêt. Et quand je dis cela aussi, non seulement je trouve que c'est un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne peux pas, tout dans mon cerveau me dit que le sang du messager de Dieu alayhi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas impur. Parce que c'est une personnalité qui a été élue par Dieu. Et j'ai tendance à penser la même chose de tous les prophètes.
Alors que les compagnons, donc et ceux qui vivaient à cette période... Pour sa salive,
sa sueur,
alayhi sallatou salam.
Oui.
Enfin, alors...
Mubtadi'a. D'ailleurs, Mohamed ben Abdel Wahhab, celui qui a été initié par l'espion britannique, l'a dit, hein, tout ce que vous avez vu, rien de tout ce qui a existé depuis la venue de l'islam jusqu'à notre époque, jusqu'à ce que moi je vienne, n'était en conformité avec l'islam. Même ceux qui m'ont enseigné n'avaient rien à voir avec la religion. Donc ce type, je ne sais pas moi, Mohammed ben Abdel Wahhab, je suis en train de préparer un écrit sur lui et honnêtement, vous savez, à chaque fois que je parle de gens qui jouissent d'une certaine notoriété dans le domaine religieux, je me souviens toujours de cette anecdote rapportée au sujet de Ibn Ma'in qui était un spécialiste fil jarh wa ta'dil. C'est l'un des premiers qui s'est livré à compiler les biographies des narrateurs, des rapporteurs des hadiths, et c'est lui qui a initié une sorte de classement. Fulan tiqa, fulan la yadbit, fulan matro, munkar al-hadith, etc. Et on rapporte qu'à certains moments, quand il écrivait, qalu yasqutu min yadihi liyara, la plume tombait de sa main, et il disait, nous sommes peut-être en train de médire de porter atteinte à l'honneur de personnes qui ont déposé leur bagage au paradis depuis déjà 200 ans. لَعَلَّنَا نَقْدَحُ فِي أَعْرَاضِ أَقْوَامٍ وَضَعُوا أَمْتِعَاتَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مُنْدُ مِئَتَيْ عَامٍ. On est au deuxième siècle de l'islam. Donc, généralement, même quand je n'apprécie pas quelqu'un, un savant, ou les propos de quelqu'un qui est dans le domaine religieux, je me dis, voilà, ça reste une idée. Cette personne peut avoir raison comme elle peut avoir tort, et nous sommes tous dans le logé à la même enseigne. Mais honnêtement, avec tout ce que je sais sur Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand j'analyse bien ce qu'il a fait, et quand on voit d'où il est sorti, et nous y reviendrons, il est de Najd, Qarn al-Shaytan, la corne du diable. C'est un hadith du messager de Dieu qui parle de cette région. Et nous expliquerons pourquoi.
Qarn al-Shaytan qui n'a rien à voir avec donc Burj Sa'a actuellement.
Non. Quand il a dit la corne du diable, quoique avec Burj Sa'a, ça représente un peu. Nous sommes dans les
véritablement des cornes.
Oui, c'est des cornes. C'est pas un croissant de lune. Le croissant de lune, on le place pas comme ça. Il n'est pas placé comme ça. Et les croissants de lune, généralement, ils sont orientés vers la Mecque.
Certains ont établi, Kamal Shakat, la relation entre ce hadith et Burj Sa'a, donc qui a été foudroyé plusieurs fois ces dernières semaines.
Ça n'a rien à voir avec ça. Même si je serais tenté de voir en ça une sorte de malédiction.
D'avertissement.
Ou d'avertissement. Mais non, Najd a un rapport intime avec toutes les tribus juives qui ont été dégagées de Médine. Tout le monde, tout ce beau monde, toutes ces communautés juives, Banu Nadir, Banu Qaynuqa, etc., sont allés s'établir dans l'actuel Najd.
Qui prépare le retour, Kamal Shakat.
Absolument. Donc on y reviendra en tentant de rester dans le politiquement correct. Mais en tout cas, quand j'étudie la personnalité de Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a peut-être 10-15 ans, je me disais, voilà, on ne peut pas être tous d'accord sur tout. Ce sont des points de vue, etc. Mais maintenant, quand on analyse bien les choses, quand on le connaît bien, ce personnage, je suis, à chaque fois que je le cite, même si je ne le dis pas ouvertement, Ya'lamullah, je le maudis. Et je ne vois pas en lui un musulman. Maintenant, la thèse même du livre de son frère Sulayman ibn Abdel Wahhab, qala anhu annahu zindiq. C'est un dévoyé, c'est un déjanté, c'est un dévergondé, et il n'avait pas tort.
Ce sont les mêmes propos de son père qui était un grand ouléma.
Oui, un grand moufti.
Alors que Majikat, pour continuer dans cette ambiance du bienfait que pourraient nous venir des médias, et les médias ont une responsabilité aujourd'hui, et beaucoup de nos auditeurs le disent et nous encouragent pour cela, je voudrais partager ce petit post de notre cher ami, Dr Salim Kebab. Alors je vous lis son post qui date du 6 août 2023. Je vais vous apprendre, comme je viens de l'apprendre de la part d'un proche, votre émission est très suivie par notre communauté installée au Québec, mais aussi par des Canadiens d'autres confessions qui s'intéressent de plus en plus à l'islam, notamment des intellectuels et la classe des gens cultivés. Fin de citation.
Alhamdoulilah. Puisse Dieu faire que nous soyons à la hauteur de cette estime, tout simplement.
La responsabilité grandit de jour en jour.
Oui. Malheureusement.
Donc il
nous,
est très important aujourd'hui de rappeler le message de l'islam et du prophète alayhi salam.
Absolument.
C'est ce que nous
faisons. Sans prétention aucune, hein, sans prétendre que nous détenons la vérité absolue.
Pas du tout.
Nous ne faisons qu'émettre un avis parmi tant d'autres. Les avis, aussi nombreux soient-ils, ne peuvent que concourir à la richesse intellectuelle, même émotionnelle des gens, dans la mesure où quand vous avez une multitude d'avis, vous ressentez cette ampleur de l'islam, ce qui nous fait rappeler les propos du messager de Dieu, alayhi salatu salam, pendant l'Eid. Sidna Abu Bakr, radiallahu anhu, est entré chez lui et a vu deux fillettes en train de chanter « Qala amzmour shaytani fi bayti rasulillah » La trompe du diable dans la maison. « Qala da'huma ya Abu Bakr » Je pense qu'il a employé le duel « mutanna » Elles étaient donc deux et pas « da'hunna » au pluriel. « Qala li ta'lama yahoudu anna fi dini nafusha » pour que les juifs de Médine sachent qu'il y a de l'ampleur dans notre religion. Vous savez, il y a Risala Sab'iniya qui a été écrite par un grand rabbin juif qui s'est converti à l'islam. J'ai oublié son nom. L'épître est très connue. La conclusion était que la religion juive est une religion obsolète. Elle ne vaut rien. On ne peut pas l'avoir comme religion et rester dans un cadre acceptable d'humanité. Il donne des arguments, et des arguments des livres même, qui sont les livres fondateurs de cette religion dite juive.
Alors Kamel Chakat, justement, pour abonder dans votre sens, il y a un grand ouléma égyptien, c'est à travers lui que j'ai su cette histoire. Donc après le retour d'une bataille avec les coalisés, je pense, une sahabia avait accueilli le prophète alayhi salatu wasalam avec une sorte d'instrument musical à base de peau de bête et lui disant qu'elle avait fait un Nadr, que s'il revenait sain et sauf, qu'elle frapperait donc dans ce douf.
Oui.
Le prophète lui avait dit, si c'est un nadr, ok, fais-le. Mais sinon, nous avons des pertes dans les rangs et tout, il y a des familles qui sont tristes. Cela voulait dire que la musique n'était pas interdite.
Attendez, il faut déjà comprendre une chose. Comme j'ai oublié qui a dit ça, c'est un grand, grand savant de l'islam des premiers temps, hein, Min al-Tabirin, si je ne m'abuse. Il a dit, il est très très facile de répondre aux gens en leur disant, non, ça c'est interdit, la yajouz. Ça c'est très facile. Le rôle d'un moufti, ce n'est pas de vous interdire, mais de vous trouver une solution quand un problème se pose. On prend en considération une multitude de choses. Nous prenons en considération les 5 vocations majeures de la loi coranique. Nous prenons en considération les 5 grandes règles qui régissent l'esprit juridique et qui donnent et à travers lesquels on arrive à définir le statut légal d'une chose. Quand nous parlons de musique, ou du moins ce que je viens de dire, signifie que autant il faut craindre Dieu quant à ne pas rendre licite ce qui ne l'est pas, que de craindre Dieu à ne pas rendre illicite ce qui l'est. La nuharrimu al-halal, wa la nuhillu al-haram. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Et c'est pour cela, comme nous l'avons dit à maintes reprises, les premiers ne disaient jamais « Ah non, hada haram, ah mais juz laksh » comme le font certains. Ils disaient « Moi, j'aurais fait autrement, je préfère ceci, je préfère cela. » Et le jurisconsulte se mettait un peu à votre place. Quand on parle de musique, « Wa minan nasi man yishtari lahu al-hadith » Ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud ont dit « C'est la musique ». Mais d'autres compagnons, connus aussi pour leur don d'exégèse, ont dit c'est le verbiage, safsaful kalam, as-sab, ash-shatm, etc. Et puis les hadiths que vous avez qui indiquent que la musique est haram carrément, l'rina ou mizmar ou shaytan, l'rina ou berid ou zina, la musique est la trompe du diable, la musique est le messager de la fornication, quoique ces deux hadiths sont, même s'ils sont jugés faibles, et qu'on ne peut pas utiliser ou argumenter avec un hadith faible dans les questions du licite et de l'illicite, le hadith al-da'if la yuhtaju bihi fil halal wal haram wa inma yuhtaju bihi fi fada'il al-a'mal. On peut utiliser un hadith jugé faible dans les bonnes mœurs ou dans une exhortation, dans la mesure où même quand on dit que ce hadith est jugé faible, nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'il soit faible. Nous avons des pistes qui indiquent une faiblesse dans la transmission de ce hadith, pas plus ni moins. Donc, quand vous parlez de musique, vous ne pouvez pas dire aux gens « al-musiqa haram » alors qu'il n'y a rien qui prouve, à travers un texte fondateur clair, que la musique est haram. Mais il faut maintenant aussi se rendre à l'évidence. « Hal nunkiru al-ghina'a fi zamanina hada ou la nunkiru » Est-ce que nous sommes en droit de désapprouver la musique, le show business qui tourne autour et tout ce monde de la musique ou pas? Et oui, et mille fois oui. Parce que le milieu musical, pour ne pas dire milieu artistique et mettre tous les artistes, quelle que soit leur discipline, dans un même sac, ce milieu musical est, le moins que l'on puisse dire, pourri. Franchement, là quand je dis c'est un milieu pourri, c'est comme si je donnais une aumône à ces artistes. Parce que vraiment, c'est un milieu qui est en train de dépraver les sociétés. La musique, déjà, c'est quelque chose qui fait de vous un Roméo lunaire. Vous êtes constamment branché dans une autre dimension. ça enivre, ça vous déconnecte de la réalité et ça a tendance à fausser vos jugements. Donc déjà, rien que pour cela, je dirais aux gens que si vous écoutez de la musique, il faut l'écouter avec parcimonie. Beaucoup de gens sont en train de véhiculer, mais alors des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'humanité, sans même parler d'islam. Et donc, quand on parle de la musique, halalun hiya am haram, à l'heure actuelle, ce que nous voyons dans le milieu artistique penche beaucoup plus pour le haram que pour le halal. Même si la musique n'est pas haram. Et c'est pour cela que les avis religieux, vous savez, les avis religieux changent en fonction des situations, des contextes. On ne peut pas, même si nous n'avons rien qui interdise la musique, ce que font nos artistes, surtout dans ce domaine qu'a appelé Rai, je suis désolé, c'est à proscrire, c'est à bannir, c'est à effacer, c'est à interdire d'antenne, je ne peux pas dire plus.
Kamal Chekat, au-delà donc de l'engagement éthique et culturel, aujourd'hui nous avons beaucoup de thèses qui reviennent sur ce fameux diable et ses représentations dans certaines musiques, dans certains genres,
oui,
et c'est très tendance actuellement au XXIe siècle.
Absolument, nous le voyons, il y a même, j'ai pas envie de le dire, mais il y a même des artistes, surtout un artiste algérien que je nommerai pas, qui est à la limite, vraiment, j'ai l'impression qu'il fait partie des satanistes et qu'il a été initié pour avoir toute la notoriété dont il jouit actuellement.
On parle carrément de pacte avec le diable.
Oui, comme ça a été fait par Madonna, par Michael Jackson, et ils l'ont dit, personne ne l'a caché. Donc on le voit dans les signes qu'il fait avec ses mains, de musique,
les signes
etc.
des mudras.
Oui, c'est ça. Dans les rires sataniques. Vraiment, nous sommes à une époque.
Pas que les artistes, même les politiciens, les grands
politiciens
du monde,
Kamal Chekat.
Alors, ne perdons pas de vue notre thématique aujourd'hui, Kamal Chekat. On a donc décidé de revenir sur l'oraison d'adieu, Khutbat al-Wada, et son importance. On dit que c'est un discours qui était très différent de tous les autres discours du prophète, alayhi salatu wasalam. Et puis, c'était le farewell, donc c'était le dernier qui devait avoir une importance capitale.
Capitale, absolument.
Kamal Chekat.
Écoutez, déjà, il faut savoir que, en termes de tradition prophétique, nous avons beaucoup, beaucoup de récits. Et il faut faire la part des choses entre l'oraison d'adieu, khutbatul wada', et ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu, hijjat al-wada'. Parce que vous avez des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait debout dans la porte de la Kaaba et il s'est adressé aux gens. Vous avez d'autres hadiths où il était sur sa chamelle et il a dit à Yohannas, il ne cessait de donner de faire des exhortations aux gens, de donner des instructions carrément. C'est pas uniquement des conseils aux gens. Qui indiquait que c'était vraiment ces derniers instants parmi les siens. Donc il y a quelques versions de cette khutbat al-wada'. Nous allons moi j'ai choisi de faire j'en ai choisi deux, mais il y en a une qui est rapportée par l'imam Muslim d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Les versions sont très proches les unes des autres. Le messager de Dieu alayhi salam se tenait sur un endroit, sur le mont Arafa normalement, et puis il y avait trois compagnons qui répétaient ce qu'il disait. Parce qu'il y avait quand même 100 000 personnes à cette oraison d'adieu, et pour que tout le monde puisse entendre, donc on a utilisé des êtres humains comme porte-voix. Et on peut supposer que par moment, il y a un mot qui change, mais qui garde le sens même du messager de Dieu. C'est peut-être ça qui donne toutes ces versions. Au début, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, après avoir loué Dieu, dira « Amma ba'du ayyuhannas, isma'u minni ubayyin lakum, fa'inni la adri la'alli ya la alqakum ba'da am yahada fi mawqifi hada. » Aux gens, écoutez ma parole, car je ne sais si je puis vous revoir en ce même endroit après cette année-ci.
أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. Aux gens, votre sang et vos biens vous sont jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu sacré comme le sang pour vous, ce jour et ce mois. Et vous rencontrerez votre Seigneur qui vous interrogera sur vos actes, et Dieu m'est témoin que je vous ai transmis. Là, ce que je lis en français n'est pas conforme au texte en arabe. « Wa innakum satalqawna rabbakum » donc « et vous allez être interrogés », etc. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله ألا ربا وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. Parce que l'Abbas ibn Abd al-Muttalib était un homme riche qui prêtait aux gens, il faisait le travail des juifs carrément. وإن دماء الجاهلية موضوع وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مئة بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. Le texte que j'ai en français est un peu plus explicite. Il dit « Quiconque a un dépôt placé chez lui en confiance, qu'il le rende comme il se doit à qui le lui a confié. Toute usure est annulée. Vous n'avez droit qu'au capital de votre prêt sans commettre d'injustice ni point en subir. Dieu a décrété que l'usure était interdite. Ainsi, les intérêts de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib sont annulés. Tout sang versé avant l'islam n'a plus lieu d'être revendiqué, à commencer par le sang de Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, qui était allaité chez les Bani Layt et que les gens de Houdaï l'ont tué. C'est donc le premier renoncement par lequel je commence dans les affaires de sang, ayant eu lieu dans la période obscurantiste de l'ère pré-islamique. Ensuite, il a dit « أيها الناس إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. » Le diable est très intelligent. Il ne viendra jamais vous dire « ne crois pas en Dieu ». Il va vous enjoliver tout simplement la mécréance. « Oh Jean, Satan a perdu tout espoir d'être adoré ici, sur votre terre. Mais s'il est obéi en dehors de cela, il s'accommode des actes que vous jugez négligeables. Prenez en garde pour votre religion. » وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد فرض ألا هل بلغت اللهم اشهد. Aux gens, le mois intercalaire n'est qu'un surcroît de mécréance, par lequel les impies ne font que sombrer dans l'erreur. Ils le rendent profane une année et l'interdisent une autre afin d'être toujours en accord avec le nombre de mois que Dieu a fait sacré. Ainsi, ils rendent licite ce que Dieu a interdit et interdisent ce qu'il a permis. Le temps a accompli un cycle complet, comme au jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Le nombre de mois pour Dieu est de 12, 4 d'entre eux sont sacrés, 3 consécutifs qui sont Dhul-Hijja, Dhul-Qa'da et Muharram, donc respectivement 11e, 12e et 1er mois du calendrier égyrien, et un 4e mois isolé qui est Rajab, et c'est le 7e mois du compute musulman. Ayyuha an-nas, inna linisa'ikum 'alaykum haqqan wa lakum 'alayhinna haqqan lakum 'alayhinna alla yut'ina furushakum ghayrakum wa la yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum illa bi'idnikum wa la yatina bifahishatin mubayyanatin fa in fa'alna fa inna allaha qad adina lakum an ta'dhuluhunna wa tahjuruhunna fil madaji'i wa tadribuhunna darban ghayra mubrih fa in intahayna wa ata'nakum فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا ألا هل بلغت اللهم اشهد. Aux gens, vous avez des droits sur vos femmes et elles ont les leurs sur vous. En ce qui vous concerne, elles ne doivent accueillir personne chez vous sans votre accord, ni de commettre une turpitude avérée. Si elles le faisaient, Dieu vous autorise alors à ne pas les côtoyer dans la couche. Et si cela ne suffit pas, à les frapper sans coups violents. Recommandez-vous de faire du bien aux femmes, car elles sont telles des prisonnières chez vous.
et ne disposent d'aucun pouvoir, et car Dieu vous les a confiés en dépôt et vous a permis de les approcher. Alors écoutez ma parole aux gens, car j'ai transmis.
أيها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ألا هل بلغت اللهم اشهد.
Aux gens, écoutez ma parole et méditez-la. Apprenez que chaque musulman est un frère pour le musulman et que les musulmans sont tous frères. Il n'est donc permis à une personne de prendre de son frère que ce qui lui a donné de bon gré. Ne vous faites donc pas de tort. Ensuite, le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, dans d'autres versions de cette khutbat al-wada', dira « فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » Ne redevenez pas après moi des mécréants qui s'entretueraient les uns les autres.
وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدْ كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍ عَلَى أَعْجَمِيٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَلَا هَلْ بَلَّغْتَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ.
Que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Dans l'autre version qui est celle de Muslim, il dira taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'dahu kitab Allahi wa sunnata nabiyhi. Je vous ai laissé ce avec quoi vous ne vous égarerez jamais si vous vous y conformez, une voie claire, le livre de Dieu et la tradition de son prophète. En gros, c'est ça khutbat al-wada', l'oraison d'adieu, et quand on l'analyse bien, ce sont pratiquement les propos du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, si on arrivait à les conceptualiser, nous nous retrouverions avec des visions, des concepts qui vont à l'encontre de toutes les fausses théories, de tout ce qui est mauvais dans le monde actuel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait preuve ici de déontologie, de bon droit, d'humanité. Tout cela a tendance à éviter à la population mondiale de sombrer dans la discorde et puis dans le chaos.
Kamashekat, certains chercheurs ont mentionné que c'était la toute première charte humaine livrée par le prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam, à l'humanité, et qu'on peut y trouver au moins 12 droits. Alors, on parle du droit à la dignité, à la sécurité, à la vie, le droit de récupérer la confiance du propriétaire, droit de posséder un bien, droit à la sécurité, droit à la liberté personnelle et à l'indépendance financière, absence de discrimination, droit d'accès aux informations, droit des hommes et des femmes, mariés et femmes, droit de maintenir les institutions religieuses et de pratiquer la religion librement, égalité des droits sociaux et économiques, droit à la justice, droit d'héritage des enfants de sexe masculin et féminin, et enfin, droit à la protection de la loi.
Oui, dans une autre version, enfin dans la version de Muslim, il est dit « Inna Allah qad qasama li kulli warithin nasibahu min al-mirat, fala tajuzu li warithin wasiyah, wala tajuzu wasiyatun fi akthara min al-thuluth. » Donc on peut pas, il ne peut y avoir de testament ou de codicille en faveur d'un héritier direct, quelqu'un qui a une quote-part. Et même quand il y a un testament, il ne peut pas excéder le tiers de la succession. Là aussi, nous sommes dans un principe de droit qui est un peu unique. من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Pourquoi ce choix sur l'oraison d'adieu? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes vraiment à une période de l'histoire de l'humanité où des loges secrètes, des sociétés occultes, des gens mauvais veulent asseoir leur hégémonie sur l'ensemble de la planète. Et ces gens-là passent au niveau des médias pour les bien-pensants. À chaque fois que je suis sollicité par des médias occidentaux pour des interviews, et Dieu sait que j'en fais très très souvent, avec des grandes radios, des radios de renom essentiellement, quelques télés aussi par moment. Maintenant, je ne fais plus rien parce que tout ce beau monde des masses médias, je vois en eux des gens qui font dans la prostitution écrite, carrément. C'est des gens qui n'ont vraiment aucune valeur. Les gens sont constamment connectés à Internet. Prenez le temps par moment d'aller vers des sujets sérieux. Essayez de vous informer sur des gens qui, actuellement aux États-Unis, un peu partout en Europe, Et même dans le monde, il y a des médias libres qui sont en train de souffrir. Des gens qui sont mis à l'index, des gens qui n'ont plus droit au chapitre, comme on dit. Vous prenez le cas de Michel Collomb. Vous prenez le cas d'un humoriste comme Dieudonné, par exemple. Il y a des gens comme ça que vous voyez à la télévision, bien habillés, très beaux, très, très sophistiqués, mais
Servent un agenda bien précis.
Tout simplement, c'est vraiment des gens qui sont bien en deçà de ce qui est admissible en termes d'humanité. C'est des gens qui ont vendu leur âme au diable, carrément.
Alors, on parle aujourd'hui de responsabilité Kamel Chakat, de ces fameux lanceurs d'alerte. On peut quand même citer quelques noms?
Il est là le problème. Vous avez, par exemple, quelqu'un comme Assange, qui est en train de dépérir. On ne sait pas dans quel état il se trouve. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que pourrait faire Assange, mais il y a des gens, si vous prenez par exemple toutes les histoires de pédophilie super organisée, comme l'affaire Epstein, ce qui a été dénoncé par Mel Gibson et Tim Ballard, des gens qui ont été vraiment, dont l'accusation est avérée, sont libres, hein. Ils n'ont rien subi de la part de la justice. Et vous savez, c'est la chose finalement, ce réseau mondial, on a commencé à l'entrevoir avec l'affaire Dutroux dans les années 80. On s'est rendu compte que le gratin de la politique et du show business était impliqué dans ces histoires macabres et sordides. Vous avez Snowden aussi, qui est un lanceur d'alerte, qui est actuellement, je ne sais plus s'il est en prison.
Il est protégé par la Russie, je crois.
Je ne sais pas, mais qui est obligé de se cacher pour vivre. D'un autre côté, vous avez ce fameux Irakien, ce moins que rien qui a brûlé le Coran, qui le faisait, qui à loisir avec la protection de la police. On a parlé d'un jeune Syrien qui avait annoncé qu'il allait brûler la Bible. Il n'y avait aucune protection pour lui.
Bien sûr.
Et là, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette fameuse caricature du véritable dirigeant de la France, Jacques Attali, en train de manipuler le président français comme une marionnette.
Consultant de Mitterrand.
Les présidents, oui. tous. Il a été pour tous les présidents. Et donc, le problème est que la caricature a suscité l'indignation et la colère du président français, qui, ne l'oublions pas, il y a à peine quelque temps, parlait de liberté d'expression quand il s'agissait de médire et de caricaturer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, pour eux, ça n'est plus de la liberté d'expression. Et puis, cette pipelette qu'on appelle Chelroumi, cet imam qui parle un très très bon français, qui ferait retourner dans sa tombe Montesquieu et j'en passe. Le type, c'est liberté d'expression. Et puis quand il y a un jeune humoriste belge qui parle de lui, il l'attaque en justice. Donc voyez, nous sommes dans ce monde du deux poids deux mesures qui fait que à un moment donné, on est dans l'obligation de sortir de notre réserve. Vous donnez le droit de nous attaquer.
Vous n'avez pas les mêmes mécènes que Chelroumi et les autres, Kamel Chakat.
Alhamdoulilah. Non, alhamdoulilah, on a les mécènes. À chaque fois qu'on a envie de monter un projet de bienfaisance, les gens viennent.
Pas une étoile bleue.
Oui. Non, mais oui, bon, enfin, on n'a pas ça, mais alhamdoulilah, il y a de la solidarité en Algérie, ne vous en faites pas.
Quelqu'un me disait, Kamel Chakat, permettez-moi cette petite digression, un grand chir me disait récemment que faut pas oublier que le Jazair bilad rasoulillah alayhi salatu wasalam.
Ya Mohammed mbrouk alik, le Jazair oulat lik, tout simplement. Et remarquez qu'à chaque fois qu'il y a une chose qui se fait en termes de symbolique en faveur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez des gens qui se lèvent de tous les coins de l'Algérie pour parler, pour faire des remarques, comme quand on a construit le Jama' al-A'dam. Vous savez, en termes de symbolique, cette grande mosquée d'Alger, elle est hautement symbolique. Elle a été bâtie là où résidait la Vigerie. Ce criminel, c'est un voyou, la Vigerie. Ouais. C'est un voleur de manuscrits, c'est un épervier du colonialisme, carrément. Et là, vous avez des gens qui, oui, on aurait pu construire autre chose, il fallait le faire ailleurs, c'est un marécage. Attention, si le minaret dépasse un certain seuil, il risque de tomber. Et puis, on nous a gavé d'intox. Et puis quand Corona est venu, oui, on devrait l'utiliser comme hôpital. Et je me souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi j'avais proposé l'opéra d'Alger, parce qu'à la limite, Je suis sûr que la grande mosquée d'Alger nous servira et nous sera plus utile, nous, le peuple algérien musulman, acquis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle nous sera plus utile que cet opéra d'Alger. J'en suis sûr et certain. Même si je ne suis pas forcément contre ce qui se passe dans l'opéra d'Alger, mais alors ça ne me pose aucun problème. Mais rien que pour répondre à ces gens-là qui sont derrière leur PC, utilisant des sobriquets, des pseudonymes pour cacher leur identité et qui lâchent comme ça leur venin. Maintenant, avec cette notion de théorie du complot, je suis sûr que ces gens-là sont tous affiliés à un même organisme qui a pour but de déstabiliser ou de jeter, semer le doute dans la foi des Algériens, malheureusement.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission d'aujourd'hui au cœur de l'islam, qui continue de dévoiler les véritables missions du prophète alayhissalatu wassalam, Sidna Mohammed, le dernier messager, et qui avait plusieurs missions qui continuent dans le temps et l'espace. D'ailleurs, même à travers cette oraison d'adieu, Kamal Shekat.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a prononcé ces propos que nous venons de lire, qui est-il? Quelle est sa position dans cette notion de messianisme qu'on connaît chez les juifs et les chrétiens? Et puis aussi, il y a un point très très important sur lequel j'aimerais revenir avant de commencer à disserter sur l'oraison d'adieu. Il y a une vidéo virale sur les réseaux sociaux qui dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais existé.
On essaiera la prochaine fois donc de connaître les véritables missions. À qui s'adressait-il? Qu'aux musulmans ou à toute l'humanité? Et sa corrélation. Bien sûr. Et sa corrélation avec ce que nous vivons aujourd'hui.
Absolument.
Je vous remercie, Kamal Shekat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour votre intérêt. Merci pour vos questions auxquelles on essaiera de répondre à partir des prochaines émissions. Kamal Shekat. Au revoir. Thank you.